VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Crise au Burundi. Le Rwanda a fait part aujourd'hui de son intention de transférer les réfugiés burundais sur son territoire vers d'autres pays. Kigali est accusé d'ingérence dans les affaires du Burundi, plongé dans une grave crise depuis avril 2015. Des détails avec John Lyndon.
Les autorités rwandaises ont en effet annoncé qu'elles allaient immédiatement commencer à travailler avec les partenaires de la communauté internationale pour préparer de manière ordonnée et sûre le transfert des réfugiés burundais vers des pays tiers. Le Rwanda remplit sans hésiter ses obligations de protection des réfugiés. Cependant, l'expérience dans la région des Grands Lacs montre que la présence à long terme des réfugiés si près de leur pays d'origine présente des risques considérables pour toutes les personnes concernées, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement. L'indifférence totale à la cause profonde, bien connue de l'instabilité au Burundi et de l'exode des réfugiés est troublante, a fustigé la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi par les États-Unis. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, donc 25 000 à Kigali.
Centrafrique, c'est à minuit que s'achève la campagne électorale pour le second tour des législatives et de la présidentielle prévue dimanche 14 février. La présidentielle mettra aux prises les anciens premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Tout est-il prêt pour que les différents scrutins se déroulent de manière équitable et transparente? La réponse du porte-parole de l'Autorité nationale des élections, Julius Ruffin, Ngwande Baba.
Nous avons pris toutes les précautions, tout le matériel a été déployé et les bulletins aussi sont déjà au niveau des centres de vote. Donc pour nous, tout est prêt pour que le scrutin de dimanche se tienne dans de bonnes conditions.
Le porte-parole de l'Autorité nationale des élections à RCA, Julius Ruffin Ngwande Baba. Au Congo-Brazzaville, la police congolaise nie avoir brutalisé des journalistes mardi à l'occasion de l'arrivée dans la capitale d'un candidat à la présidentielle du 20 mars, comme l'en accuse l'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières. « Je n'ai aucune connaissance de ces agressions », a déclaré aujourd'hui à l'AFP le colonel Jules Moncala Tchoumou, porte-parole de la police congolaise. RSF a accusé hier la police d'avoir sévèrement frappé une dizaine de journalistes congolais qui attendaient l'arrivée de l'avion du général Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville. Ce dernier, le représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Centrafrique, a démissionné début février de son poste de conseiller pour les questions de paix et de sécurité auprès du président congolais Denis Sassou Nguesso pour se présenter contre lui à la présidentielle du 20 mars. Interrogé par l'AFP après les événements de l'aéroport, le général Mokoko a accusé les policiers de l'avoir caillassé dès sa descente d'avion, le contraignant à quitter les lieux en toute précipitation. Procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré Dakar au Sénégal, les plaidoiries se terminent en principe aujourd'hui et le verdict sera annoncé vers le mois de mai. Hier, le procureur du tribunal spécial africain qui juge l'ancien président a requis la prison à perpétuité pour Hissène Habré, une condamnation à la hauteur de ses crimes, a souligné le procureur Mbake Fall. Depuis l'ouverture de son procès le 20 juillet 2015, M. Habré, qui a été amené de force devant le tribunal, est resté muet. Écoutons la réaction de son avocat, Maître François Serre, au procès en cours.
La défense du président Habré a toujours clamé que c'était un procès inéquitable. On a prétendu créer une juridiction internationale qui viole tous les standards internationaux. On n'a pas appliqué un règlement de procédure internationale qui permettait aux avocats de la défense d'aller faire des enquêtes, par exemple au Tchad, comme ça s'est passé dans l'affaire Gbagbo devant la CPI, où les avocats du président Gbagbo sont allés en Côte d'Ivoire. Ma sécurité personnelle était en fait menacée au Tchad. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une enquête qui a été totalement manipulée par les ONG, notamment Human Rights Watch. En plus, on a pu constater qu'il y avait eu des éléments qui ont corrompu le procès, puisque les juges d'instruction ont reçu des sommes d'argent de la part du régime du président Déby. Ce qui, normalement, comme vos auditeurs américains pourraient le comprendre, suffirait aux États-Unis à arrêter un procès. Le président Déby a contrôlé ce procès puisqu'il en a été le financier.
Maître François Serre, avocat du Sénabré à Dakar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, 4 morts chez les casques bleus après le décès de 2 blessés graves, plus près d'une trentaine de blessés recevant des soins. Tel est le bilan d'une attaque de présumés djihadistes ce matin à Kidal, dans le nord. Et dans la région de Tombouctou, ce sont 3 soldats maliens qui ont péri et 3 autres qui ont été blessés dans une embuscade tendue par des hommes armés également aujourd'hui. La MINUSMA, la mission de l'ONU, ne cache pas sa réprobation après l'attaque de Kidal, la deuxième dont elle est victime en une semaine. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est aux environs de 7h du matin que le camp de la MINUSMA basé à Kidal a été la cible d'une attaque à la roquette. Les échanges ont duré 2 heures. Sur l'axe Tombouctou-Goundam, une patrouille de l'armée malienne est tombée dans une embuscade tendue par des groupes armés. C'était dans les environs de 9h dans la localité d'Acharan. Bilan, 3 militaires tués, 3 autres blessés, un véhicule emporté. Côté assaillant, on ne connaît pas le nombre de victimes pour le moment. Les blessés maliens sont au niveau de l'hôpital de Tombouctou. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé son indignation. Il exprime leur révolte par rapport à l'acte odieux et irresponsable qui est survenu une semaine après les arrangements locaux intervenus entre la plateforme et la CEMA et 48 heures après son passage à Kidal. A signaler que les 2 attaques de ce vendredi font suite à celle de Tombouctou contre le camp de l'AMINUSMA où un soldat malien avait perdu la vie tout comme 5 assaillants. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle prévu le 28 février reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées selon la Cour constitutionnelle béninoise. Plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause de retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4 600 000 électeurs. Au total, 33 candidats sont en lice pour cette élection. Actualité dans le reste de l'Afrique, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé au poste de vice-président son ennemi juré Riek Machar, chef de l'ex-rébellion, pour se conformer à l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 années de guerre civile. Les détails avec Anna Bodson.
Monsieur Machar avait déjà été le vice-président de Monsieur Kiir entre 2005 et 2011, quand le Soudan du Sud n'était encore qu'une région semi-autonome au sein du Soudan, puis entre juillet 2011, après l'indépendance, et juillet 2013, quand il avait été démis de ses fonctions. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un pas en avant dans l'application de l'accord de paix, a déclaré à l'AFP Monsieur Machar, qui s'exprimait depuis l'Éthiopie. Monsieur Machar n'a toujours pas mis les pieds à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, depuis la signature de l'accord de paix le 26 août 2015. Cet accord n'a pas empêché les combats de se poursuivre et les 2 camps s'accusent mutuellement de ne pas le respecter. Le conflit a débuté dans la capitale, Djouba, lorsque Monsieur Kiir, un Dinka, a accusé son ancien vice-président, de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État.
Et puis en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est moqué aujourd'hui des députés de l'opposition qui ont perturbé la veille son discours annuel sur l'état de la nation au Parlement. Ils ont montré à quel point ils ne comprennent pas comment fonctionne la démocratie, a souligné le chef de l'État lors d'un débat à la télévision publique au lendemain des incidents. Plus de précisions sur les protestations des députés hier avec Michel Joseph.
Ces députés ont quitté le Parlement en scandant des slogans anti-Zuma dans le genre « Zupta doit tomber », jeu de mots en référence au lien étroit entre Jacob Zuma et les Gupta, de richissime homme d'affaires d'origine indienne, soupçonné d'avoir une influence directe sur le pouvoir sud-africain. Et Julius Malema, le soi-disant enfant terrible du parti combattant de la liberté économique, a ignoré les rappels à l'ordre pour crier « Zuma ne mérite le respect de personne. Il nous a volé, il a corrompu l'économie de l'Afrique du Sud, il a transformé ce pays en blague. Nous ne le connaissons pas comme notre président. » Quelques heures avant le discours de M. Zuma, des échauffourées avaient éclaté entre quelques centaines de partisans de Malema et la police. Une accusation d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de la résidence privée du président sud-africain et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de 2 ministres des Finances en décembre, alimentent depuis 10 semaines une campagne « Zuma doit tomber ».
Et pour terminer, conflit en Syrie, les États-Unis et la Syrie sont tombés d'accord sur une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine afin de relancer le processus de paix et de stopper l'exode des civils. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.